Alphonse du Ligori, Préparation à la mort. Septième considération. Sentiment d'un moribond qui presque jamais n'a pensé à la mort. Mettez ordre aux affaires de votre maison, car vous mourrez et vous ne vivrez plus. Premier point. Transportez-vous en esprit auprès du lit d'un malade à qui il ne reste plus que quelques heures de vie. Voyez ce malheureux comme toutes les douleurs l'accablent. Il tombe dans de fréquents évanouissements. Sa poitrine est oppressée. La respiration lui manque. Une sueur froide se répand sur tout son corps. Sa tête est tellement affaiblie qu'il ne sent presque plus, n'entend presque plus et ne parle qu'avec peine. Mais le plus grand de tous ces maux, c'est qu'il est prêt de mourir et qu'au lieu de penser à son âme et de préparer ses comptes pour l'éternité, il ne s'occupe que des médecins et des remèdes qui pourraient le délivrer de cette maladie, de ces douleurs qui le conduisent au tombeau. Saint Laurent Justinien dit, en parlant de ces moribonds, qu'ils ne peuvent s'occuper que d'eux-mêmes. Si du moins ses parents, ses amis l'avertissaient du danger pressant où il se trouve. Mais parmi eux, il n'est personne qui ait le courage de lui annoncer la nouvelle de sa mort prochaine et de l'exhorter à recevoir les sacrements. Chacun se refuse à ce devoir de charité, dans la crainte d'affliger le malade. Ô mon Dieu, je vous remercie par avance de ce qu'à l'article de la mort, vous me ferez la grâce d'être assisté de mes chers frères de religion, qui n'auront d'autres intérêts que ceux de mon salut éternel, et qui tous m'aideront à bien mourir. Quoique l'on garde auprès du malade le plus profond silence sur son état désespéré, cependant, le trouble de sa famille, les consultations fréquentes des médecins, les remèdes violents et multipliés qu'on emploie, tout le lui fait soupçonner. Les craintes, les remords, les défiances lui livrent tour à tour les plus terribles assauts. Hélas, qui sait, se dit-il à lui-même, si la fin de mes jours n'est pas déjà venue. Mais de quel sentiment sera agité ce pauvre moribond quand on lui annoncera la nouvelle de sa mort prochaine et qu'on lui dira « Mettez ordre aux affaires de votre maison, car vous mourrez ». Quelle peine ne ressentira-t-il pas lorsqu'il entendra ces terribles paroles ? Votre maladie est sans remède. Il faut recevoir les sacrements. Il faut vous unir à Dieu et vous disposer à quitter ce monde. Comment ? Il faut quitter cette maison, cette ville, ses parents, ses amis, ses conversations, ses parties de plaisir, ses biens ? Oui, tout. Déjà le notaire est arrivé et il écrit cet acte de dépouillement. Je laisse, je laisse. Et ce malheureux, qu'emporte-t-il avec lui en ce moment ? Rien qu'un mauvais drap qui doit pourrir avec lui dans la terre. Quelle tristesse, quelle inquiétude causeront à ce pauvre malade les larmes de ses domestiques, le silence de ses amis qui se taisent en sa présence et n'ont pas le courage de parler. Mais les remords cuisants qui s'élèveront alors dans sa conscience avec plus de force que jamais feront le plus grand de ses tourments. Et en effet, quel sujet de remords pour un mourant qu'une vie criminelle jusqu'à ses derniers moments, après tant d'inspiration, après tant d'avis donnés par un sage directeur, après tant de bonnes résolutions qu'il n'a jamais eu le courage d'exécuter ou qu'il a presque aussitôt oublié. « Oh, malheureux que je suis, dira-t-il alors. Dieu m'a accordé tant de grâce. J'ai eu un si long espace de temps pour mettre ma conscience en bon état, et je ne l'ai pas fait. Et voici, que je vais mourir. Que me coûtait-il de fuir cette occasion, de rompre cette liaison, de me confesser toutes les semaines? Et quand j'aurais dû, pour cela, me faire quelque violence, ne devais-je pas tout faire pour sauver mon âme qui est tout pour moi? Oh, si j'avais exécuté cette bonne résolution que j'avais conçue, si j'avais continué de vivre comme j'avais alors commencé, combien à cette heure je serais content. Mais je ne l'ai pas fait, et déjà il n'est plus temps de le faire. Les sentiments de ces moribonds, qui pendant leur vie ont négligé le soin de leur salut, sont semblables à ceux que les démons éprouvent dans les enfers. Ils se repentent de leurs péchés, parce qu'ils sont la cause des maux qu'ils endurent. Mais se repentir ne leur sert de rien, et leur malheur est sans remède. Affections et prières. Tels sont, ô mon Dieu, les sentiments de douleur que j'éprouverais si l'on m'annonçait en ce moment la nouvelle de ma mort prochaine. Je vous remercie des lumières que vous me donnez et du temps que vous daignez m'accorder encore pour me reconnaître. Non, mon Dieu, non, je ne veux plus m'éloigner de vous puisque vous m'avez recherché avec tant d'ardeur. J'ai un juste sujet de craindre que vous ne m'abandonniez, si maintenant je refusais de me rendre. Vous m'avez donné un cœur pour vous aimer, et j'en ai fait un si coupable usage. J'ai aimé les créatures et je vous ai oublié, vous qui êtes mon Créateur, mon Rédempteur, et qui avez bien voulu mourir pour moi. Au lieu de vous aimer, combien de fois vous ai-je offensé et me suis-je éloigné de vous? Je savais qu'en commettant le péché, je vous causais un extrême déplaisir. Je le savais, ô mon Dieu, et cependant, je l'ai commis. J'en conçois à présent une vive douleur, je m'en repens, et je veux sincèrement me convertir. Je renonce à tous les plaisirs du monde pour n'aimer que vous, et ne plaire qu'à vous seul. Ô Dieu de mon âme, vous m'avez si souvent donné les plus grands témoignages de votre amour. Je veux aussi, avant de mourir, vous témoigner que je vous aime. J'accepte dès à présent toutes les infirmités, les croix, toutes les humiliations et les contradictions que je pourrais éprouver de la part des hommes. Donnez-moi le courage de les souffrir sans murmurer, de les souffrir pour votre amour. Je vous aime, ô bonté infinie. Je vous aime plus que toute chose. Mais faites que je vous aime encore davantage et que je vous demeure fidèle à jamais. Second point. Ô, comme à la mort on est convaincu des vérités que la foi nous enseigne. Mais de quoi sert cette conviction à une personne mourante et qui a mal vécu, sinon à augmenter les peines nouvelles dont elle est agitée? Si surtout cette personne était consacrée à Dieu dans un état où elle a eu plus de facilité, plus de temps pour le servir, où elle a eu sous les yeux un plus grand nombre de bons exemples, où elle a reçu plus d'inspiration. Ô Dieu! Quelle peine ne lui causera pas cette horrible pensée? J'ai repris les autres et j'ai fait plus mal qu'eux. J'ai quitté le monde et mon cœur est demeuré attaché aux plaisirs et aux vanités du monde. Quel remords n'éprouvera-t-elle pas au souvenir de tant de grâces qu'elle aura reçues et qui auraient suffi à un païen pour se sanctifier? De quelle profonde douleur ne sera-t-elle pas accablée en se souvenant qu'elle a traité de petitesse d'esprit les pratiques de piété dont elle a négligé la pratique? Qu'elle s'est faite l'apologiste de certaines maximes du monde fondées sur l'orgueil et l'estime de soi-même, qui fait qu'on se préfère en tout aux autres, qu'on ne veut rien souffrir de leur part et qu'on se procure tous les plaisirs. Le désir des pécheurs périra, dit le psalmiste. Combien, à la mort, on regrettera le temps que l'on perd maintenant. Saint Grégoire rapporte dans ses dialogues qu'un nommé Chrysance, homme riche mais de mauvaises mœurs, vit à ses derniers moments une multitude de démons qui se disposaient à l'enlever. Il leur criait dans son désespoir « Encore un peu de temps, seulement jusqu'à demain. » Mais les démons lui répondirent « Quoi, malheureux, tu demandes du temps? Tu en as eu? Tu l'as perdu. Tu l'as employé à pécher et tu demandes du temps? Va, il n'y a plus de temps pour toi. » Le pauvre moribond continuait à crier et à demander du secours. Il disait à un de ses fils, religieux nommé Maxime, « Mon fils, mon cher Maxime, viens à mon secours. » Son visage était tout enflammé. Il se roulait dans son lit comme un furieux. Et il rendit l'esprit dans ses terribles agitations, en poussant un dernier cri de désespoir. Pendant la vie, les insensés, amateurs du monde, aiment leur folie. Mais à la mort, ils ouvrent les yeux. Ils confessent qu'ils n'ont été que des insensés. Aveu tardif qui ne fait qu'augmenter leur désespoir. Ils meurent dans cet état et ils nous laissent dans la plus grande incertitude sur leur salut. Pour vous, mon frère, qui lisez ces réflexions, il me semble vous entendre dire « Cela est vrai. » Mais s'il en est ainsi, si pendant la vie vous avez le bonheur de connaître la vérité, quelle serait donc votre folie? Quel serait votre sort pour l'éternité si vous ne mettiez pas ordre à votre conscience pendant que vous en avez le temps? Cette lecture même que vous venez de faire serait à la mort un glaive de douleur qui percerait votre âme. Courage donc pendant qu'il en est temps encore. Évitez une mort si redoutable. Remédiez promptement aux maux de votre conscience. Et n'attendez pas pour le faire un temps qui ne sera plus le temps favorable. Ne remettez pas votre conversion à l'autre mois, à l'autre semaine. Qui sait si ce jour que Dieu vous donne dans sa miséricorde ne sera pas le dernier de vos jours? Qui sait si cet avertissement que vous recevez aujourd'hui ne sera pas le dernier pour vous? C'est une sottise de ne vouloir pas entendre parler de la mort qui est certaine et d'où dépend l'éternité. Mais c'en est une bien plus grande encore d'y penser et de ne point s'y préparer. Pensez et agissez maintenant comme vous voudriez l'avoir fait à l'heure de la mort. Vous le ferez maintenant avec fruit et avec la douce confiance de vous sauver. Vous ne le ferez alors qu'avec la crainte bien fondée de ne point opérer votre salut. Un gentilhomme de la cour de Charles V, ayant formé le généreux dessein de ne vivre plus que pour Dieu, prit congé de l'empereur, qui lui demanda pourquoi il quittait la cour. C'est, répondit-il, que pour se sauver, il faut mettre quelque intervalle de pénitence entre la mort et une vie passée dans le péché. Affections et prières. Non, mon Dieu, non, je ne veux pas abuser plus longtemps de votre miséricorde. Je vous remercie de ce que vous avez bien voulu m'éclairer sur mes plus chers intérêts. Je vous promets de changer de vie. Déjà, je vois que vous ne pouvez plus me supporter. Veux-je donc attendre que vous me précipitiez dans l'enfer que j'ai tant de fois mérité par mes péchés, ou que vous m'abandonniez à la dépravation de mon cœur, ce qui serait un châtiment plus cruel que la mort même? Je me jette à vos pieds. Daignez m'accorder mon pardon, je ne le mérite pas, il est vrai. Mais vous avez dit, en quelques jours que l'impie se convertisse, son impiété ne lui nuira point. Ô mon Jésus, si par le passé j'ai offensé votre bonté infinie, j'en conçois maintenant un véritable repentir, et j'espère que vous me ferez miséricorde. Je vous dirai avec saint Ambroise, ne permettez pas que mon âme se perde à cause de ses péchés, puisque vous l'avez rachetée de votre précieux sang. Ne voyez plus mon ingratitude, mais voyez l'amour qui vous a fait mourir pour moi. Si j'ai perdu votre grâce, vous n'avez point perdu le pouvoir de me la rendre. Ayez donc pitié de moi, ô mon divin Rédempteur. Pardonnez-moi et donnez-moi la grâce de vous aimer, puisque désormais, je ne veux plus aimer que vous seul. C'est pour vous aimer que vous m'avez choisi parmi tant de créatures possibles. Je vous choisis aujourd'hui pour vous aimer par-dessus toutes choses, vous qui êtes mon souverain bien. Vous me précédez avec votre croix. Je ne veux plus cesser de vous suivre avec celle qu'il vous plaira de me faire porter. J'accepte d'avance toutes les mortifications, toutes les peines que vous m'enverrez, pourvu que vous ne me priviez pas de votre grâce. Il me suffit, je suis content. Ô Marie, qui êtes mon espérance, obtenez-moi de Dieu la grâce de persévérer dans le bien et celle de l'aimer toujours. Je ne demande rien de plus. Troisième point. Tout à la mort deviendra peines et souffrances pour celui qui, pendant la vie, sera demeuré indifférent sur son salut. Le souvenir des plaisirs dont il aura joui, des honneurs qu'il aura reçus, du faste et des grandeurs qu'il aura tant aimés, sera comme une flèche aiguë qui percera son âme. Ses amis qui viendront le visiter, tout ce qu'ils rappelleront à sa mémoire, sera pour lui un nouveau sujet de peine. Il ne pourra supporter la vue de ses directeurs qui viendront l'assister à ses derniers moments. Il souffrira en songeant aux derniers sacrements de pénitence, d'eucharistie et d'extrême-onction qu'il lui faut recevoir. La vue même du crucifix qui lui sera présenté fera sentir à son âme de nouvelles douleurs, parce qu'il y verra en même temps combien il a mal répondu à l'amour d'un Dieu mort pour le sauver. « Ô insensé que j'ai été !» dira alors ce pauvre moribond. « Avec tant de grâce que j'ai reçue, je pouvais me sanctifier. Je pouvais passer ma vie dans l'amitié de mon Dieu. Et maintenant, que me reste-t-il de tant d'années que j'ai passées dans le monde? Que me reste-t-il, sinon des tourments, des inquiétudes, des craintes, des remords, un compte terrible à rendre à Dieu et une grande difficulté à opérer mon salut? Et à quel moment dira-t-il cela? Lorsque la lampe est près de s'éteindre, lorsque la scène du monde va se fermer pour lui, lorsqu'il se trouve en présence des deux éternités, heureuses ou malheureuses, lorsqu'il est sur le point d'exhaler ce dernier soupir, d'où dépend ou un bonheur ou un malheur qui doit durer autant que Dieu sera Dieu. Que ne donnerait-il pas alors pour avoir encore une année, un mois, ou au moins une semaine, avec le libre exercice de toutes ses facultés? Car dans l'état où il est, il ne peut rien faire. De fréquents étourdissements, une continuelle oppression de poitrine, ne lui permettent pas de réfléchir et de s'appliquer à quelque chose de sérieux. Il se trouve comme enfermé dans un antre obscur où il ne voit rien que des ruines prêtes à tomber sur lui et qu'il ne peut éviter. Il désirerait encore du temps, mais on lui dira « Partez ». Allez promptement, préparez vos comptes le mieux que vous pourrez, pendant le peu d'instants qui vous reste, et partez. Oh, de quelle crainte ne sera-t-il pas saisi lorsqu'il pensera et se dira à lui-même Ce matin, je suis encore vivant. Ce soir, probablement, je serai mort. Aujourd'hui, j'habite cet appartement. Demain, je serai dans la terre. Et mon âme, où sera-t-elle? Quelle épouvante quand il verra préparer le cierge béni, quand il sentira sur tout son corps la sueur froide de la mort, quand il entendra donner à ses parents l'ordre de se retirer et de ne plus rentrer, quand ses yeux obscurcis se fermeront à la lumière. Quelle épouvante enfin quand il verra allumer le cierge, parce qu'il n'a plus que quelques instants à vivre. Ô flambeau, comme tu découvriras cette dernière heure, comme tu montreras les choses bien différentes de ce qu'elles paraissent maintenant, comme tu feras voir que tous les biens de ce monde ne sont que vanité, folie et mensonge. Mais à quoi servira la connaissance de ces vérités à un homme qui n'a plus le temps d'en faire son profit. Affections et prières. Ô mon Dieu, vous ne voulez pas ma mort, mais que je me convertisse et que je vive. Je vous remercie de m'avoir attendu jusqu'à ce moment et des grâces que vous avez bien voulu m'accorder. Je reconnais combien j'ai été coupable en préférant à votre amitié des biens aussi vils et aussi méprisables. Je me repens de vous avoir fait une si grande injure, et j'en conçois une profonde douleur. Je vous conjure de m'accorder pendant tout le temps que j'ai encore à vivre toutes les lumières et toutes les grâces qui me sont nécessaires pour connaître et faire ce qui doit opérer ma conversion. Que me servira d'avoir connu la vérité quand je n'aurai plus le temps d'en profiter, quand le démon me sollicitera de nouveau à vous offenser, ô mon Jésus, par les mérites de votre passion, tendez-moi une main secourable. Ne permettez pas que je tombe dans le péché et que je devienne encore l'esclave de votre ennemi. Faites que dans ces circonstances difficiles, j'ai recours à vous et que je ne cesse de vous invoquer tant que durera la tentation. Votre sang est le fondement de mon espérance et votre bonté celui de mon amour. Je vous aime, ô Dieu digne d'être infiniment aimé. Faites que je vous aime toujours. Faites-moi connaître les choses dont je dois me séparer pour être tout à vous. Je suis disposée avec votre grâce à faire tout ce que vous demanderez de moi. Ô Reine du ciel, ô Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheur. Faites que dans les tentations, toujours, j'ai recours à Jésus et à vous, qui, par votre puissante intercession, préservez du péché ceux qui ont mis en vous leur confiance.